des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. Mon invité est Alexei Bajanov pour la suite de notre entretien. Alexei est russe, il a été comédien et metteur en scène au Théâtre d'art de Moscou, puis acteur, réalisateur de séries documentaires scientifiques, des clips musicaux. Il a aussi réalisé un film de fiction en 2019. Nous avons parlé de son enfance et adolescence à Astrakhan, au bord de la Volga, de ses années d'études et de son travail de comédien, parlé d'acteur et de metteur en scène en Russie. Nous allons continuer de le suivre à Moscou pour parler de l'art du théâtre, de la perestroïka et de liberté, jusqu'à Paris, où il partage de temps en temps avec les étudiants de la prestigieuse école de théâtre, l'atelier de Blanche Salon, sa belle expérience. Bonjour Alexei.
Bonjour Fabiola.
Tu as été comédien, tu as travaillé, nous le disions dans l'entretien précédent, pendant 6 années au Théâtre d'art de Moscou. Années qui se sont déroulées dans la période qui a suivi la perestroïka.
Oui, on peut dire ça.
Est-ce que c'était une liberté nouvelle? Il y avait des changements, des réformes? Cela s'est reflété dans le théâtre? Comment l'as-tu vécu?
Ça dépend, parce que la première année que nous étions déjà au Théâtre d'art de Moscou, il y avait un moment où Gorbatchev, en tant que président de l'Union soviétique, il était venu voir le spectacle et après il est monté sur la scène et il nous a parlé. Donc on peut dire que la perestroïka continuait toujours, mais quand même à cette époque, Gorbatchev a fait des choses principales. Il en a déjà accompli sa mission, c'est-à-dire qu'il a donné la liberté, et pas seulement à des gens de l'Union soviétique, mais aussi la démolition du mur de Berlin. Donc, pour moi, c'est un grand homme qui vraiment a réussi à changer ce monde pour mieux, ce qui arrive très très rarement aux gens politiques. Parce que c'est incroyable quand même, on ne peut pas s'imaginer qu'un jour le mur de Berlin va s'écrouler, qu'on se retrouvera dans un monde libre et réunis. Il n'y a plus de ce partage pour les pays socialistes, capitalistes, tout ça. Et
la guerre froide.
La guerre froide. Et c'est grâce au Gorbatchev. Mais par contre, tout ce que je dis de Gorbatchev, peu personne partage cette opinion sur Gorbatchev. Plutôt, en Russie, on le déteste à un tel niveau que dès qu'on prononce le nom Gorbatchev, tout le monde se met en colère ou commence à rigoler que ce con qui a...
Ah, ce sont ceux qui regrettent l'ancien...
Oui, il y a une opinion que c'est de sa faute qu'on a perdu toute la puissance de l'Union soviétique et que sans lui, l'Union soviétique aurait existé toujours et tout ça. Qu'il était faible, c'est pourquoi les Occidentaux, les Américains ont profité pour s'écrouler l'Union soviétique. Et pour moi, tout à fait au contraire.
Mais c'était tout de suite après ou à partir à quel moment cette opinion? C'est pas tout de suite. Tout de suite, les gens, ils étaient plutôt contents, non?
Ben non.
Non, même pas à l'époque.
Comme ça se passe souvent, tout est plus compliqué parce que même moi, j'étais un peu déçu vers des années 90. Et moi, je considérais qu'il avance trop lentement. Qu'il faut faire beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Là, je comprends qu'il a fait même un peu vite. Mm. Il fallait faire doucement. Ah oui, parce que la liberté est tombée sur les têtes des soviétiques.
Comme un coup
près. Telle puissance qu'ils n'ont pas réussi à l'avaler. Mm. Et c'est devenu un chaos total. Et Yeltsin en a profité, donc tout de suite on a eu un capitalisme sauvage. Il y avait.
Mais justement, c'était une de mes questions. Comment s'installe une dictature en fait? Comment? Parce que c'était des années où tout semblait à repenser, à faire, à explorer, et puis la liberté disparaît petit à petit.
Pour moi, on a foutu définitivement notre chance au 96, quand on a relu Yeltsin. Mm. Parce que lui, il a tout foutu pour son premier
mandat.
Et je me souviens, il y a une tradition en Russie que le président vient le 31 décembre. Il tient son discours pour dire aux citoyens ce qui en a fait des biens pendant cette année-là, ce qui en a apporté, tout ça. Donc Yeltsin, pendant son premier mandat, il est arrivé. Il y avait des documents avisaux avec qui on a volé l'argent d'État. Donc il y avait un problème avec ces documents qui s'appelle avisaux du côté de la Tchétchène, qui est devenue indépendante et tout ça. Donc, mais tout d'un coup, Yeltsin, dans son discours, il annonce que, vous voyez, pendant cette année, on a volé avec les avisos. Il nomme le chiffre qui est correspondant à tout budget de la Russie. Donc, on a volé un budget supplémentaire de toute la Russie. Il a dit, il faut finir avec ça. Moi, je me suis dit, mais, et toi, t'étais où? Pendant toute cette année, on t'a volé un budget de ton pays.
Oui.
Et tu annonces comme ça, calmement, qu'on a volé avec, il faut finir avec ça. Bah, il faut finir avec ton mandat. Mm. Si tu n'as pas réussi à arrêter tout ça pendant. Il avait bien sûr les problèmes avec l'alcool. On a volé pas que c'est l'argent. On a volé tout le pays parce que le pays le plus extrait savoureux de l'économie de la Russie, il était partagé par peu de personnes pour rien. Pour rien. Bon, on connaît tous ces histoires avec cette. Un concours pour vendre. Donc, c'était évident. Et en plus, la première guerre tchétchène, avec ses résultats atroces et tout ça. Et on avait, pour moi, c'est clair qu'on avait une chance unique dans toute l'histoire de Russie. Qu'il y avait Gorbatchev qui a donné la liberté, mais il a commis des fautes. Et il était parti, il n'a pas accroché au pouvoir, il a redonné.
Il est parti sans violence.
Oui, sans violence. Il est parti sans violence. Et donc, le changement du pouvoir, pour la première fois dans l'histoire de Russie, ça ne se fait pas par la mort de dirigeants et pas par la révolution. C'était, on peut dire, démocratiquement, d'une manière démocratique. C'était pour la première fois, bien que, à mon avis, Gorbatchev, ses fautes, il était assez important, mais pas si grave pour qu'il change le pouvoir. Bon, d'accord. Yeltsin, il était venu et il a commis des choses vraiment atroces. épouvantable mal pour la Russie entière. Et il fallait la virer à l'élection de 96. Mais là, j'ai eu la carte très bête que si c'est pas Yeltsin, ça va être les communistes qui reviennent. Bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de communistes. Les communistes qu'ils ont fait peur le peuple de la Russie sont restés depuis toujours au Parlement russe, Douma. Il est d'accord avec tout ce qui... Il était les mêmes au 96. Ils ne pouvaient rien faire, ce n'étaient pas les vrais communistes. Ils ont créé la partie communiste de la Russie et il n'avait rien à voir avec la KPSS, le parti communiste de l'Union soviétique. C'était des faux communistes. Mais ils ont joué cette carte, ils ont dit bah, « si pas nous, donc les communistes vont revenir ». Bien qu'il y avait 6 personnes, il y avait Yavlinsky avec son parti Yabloko, la pomme qu'ils appellent, même pour ça. Et je suis persuadé qu'en ce moment-là, la chose la plus importante pour la Russie était de changer le dirigeant une deuxième fois pour que les gens voient que c'est nous qui décident et on peut virer. Et le gérant, le suivant gérant, il aurait su déjà que le peuple va le virer s'il fait des bêtises. Et ça, c'était très important pour la Russie. Et on avait beaucoup de discussions par la cuisine avec nos amis, tout ça. Et la plupart de mes amis qui sont intelligents, qui a gagné assez d'argent à cette époque-là déjà. Et tout d'un coup, au début de 1996, Yeltsin, il a eu 4% peut-être les gens qui voulaient qu'il reste pour la deuxième mandat. Et au mois de juin, quand c'était l'élection, il a reçu déjà presque moitié. Bon, il y avait 2 tours hein, de l'élection, mais quand même. Et je connais ces gens de mon entourage.
Qui
a voté pour lui, parce que tous ces mois, ils ont répété la chose que Berezovsky et les autres gens qui viennent de partager tous les biens de Russie, ils avaient peur que si Yeltsin va perdre le pouvoir...
Ils vont perdre leur...
Ils ne vont pas confirmer, faire législatif ce qu'ils ont pris d'État. Et donc, ils ont fait cette propagande, les terribles communistes, Goulag va revenir en Russie, soit Yeltsin. Il n'y a pas d'autre alternative.
Et donc, c'est lui qui a préparé, d'après toi, le terrain pour...
C'est sûr, parce que sa famille, elle est toujours un quart de siècle en passé, et la famille de Yeltsin reçoit toujours l'argent de différentes entreprises russes. Donc, c'est Yeltsin qui a préparé l'avenir de sa famille. Bon, c'est très...
Non, mais je voulais dire aussi, il a préparé ce qui se passe actuellement en Russie.
Oui, ça, c'est sûr. Pour moi, il n'y a aucun doute que les gens ont perdu en 1996. Parce qu'on avait une seule... chance de toute l'histoire de la Russie pour changer notre pays pour un pays démocratique, pour un pays libre. Et les gens n'ont pas voulu la liberté, ils ont changé contre ses salaires pour sa tranquillité, comme ils ont dit, non, s'il y a quelqu'un autre qui vient à la place de Yeltsin, ça va créer encore quelques années, on ne sait pas. Mais ils n'ont pas réussi à comprendre que c'est ça la chose la plus importante. C'est d'avoir des dirigeants qui savent qu'ils sont responsables devant son peuple. Il y a des gens qui considèrent qu'on a pris la constitution après ce fameux événement quand Yeltsin a tiré sur le parlement avec les tanks, qu'après on a pris cette constitution qui était plutôt monarchique, qu'on a eu le président qui est monarque plutôt que président démocratique. Mais oui, bien sûr, il y avait des choses ça, mais quand même, si j'aurais pas vu autant de personnes autour de moi qui étaient prêtes de voter pour Yeltsin, j'aurais été d'accord.
Mais là, il faudrait citer, il est toujours, c'est fou, il avait 17 ans quand il a écrit ça, Étienne La Boétie, qui dit « C'est bien le peuple qui délaisse la liberté et non pas le tyran qui la lui prend. Seule la servitude de l'homme permet au tyran de rester au pouvoir. L'obéissance est un préalable à la violence. » Et il dit ça dans La servitude volontaire il y a 4 siècles ou plus. Donc,
mais quand on a le tyran, c'est déjà trop tard. Parce que là, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup de sang. C'est avant quand on doit penser. Parce qu'en 1996, il n'y avait pas les tyrannies. Il y avait un chaos. Et donc, c'est dans ce moment-là quand on a la possibilité de régler des choses par les élections. Mais oui, on dit que Yeltsin, il y avait des... Ils ont triché un peu, que les communistes, ils ont eu plus de... Mais c'est peut-être, mais c'était 1-2%.
Oui, très fin.
Mais la plupart des gens ont voté pour Yeltsin. Et c'était ça. Pour moi, c'était incompréhensible. Comment avec ces gens-là, il y a 3 ans, on était très heureux que tout est fini, que Gorbatchev nous a donné, que Yeltsin a changé Gorbatchev. On était très contents. Et là, au bout de 4 ans, ils commencent de répéter les choses comme zombies, d'après les propagandes, les gens qui ont volé tout le pays. C'était incroyable. Et là, donc, ça a les conséquences en ce moment. Et on paye maintenant un prix énorme. Mais les racines, ils sont là-bas.
Et puisque tu parles de Gorbatchev, justement, tu étais, on revient un peu en arrière, tu étais étudiant, c'était en 88. Tu es invité avec un collègue, tu n'y crois pas trop, mais tu déposes une demande de visa et tu l'obtiens.
Oui.
Et tu passes 2 mois à Paris.
En plus, avec mon ami, nous étions les premiers cosmonautes, on peut dire, de l'Union soviétique, qui a profité de cette permission de Gorbatchev. Parce que, comme nous sommes venus, il y avait le VIR, c'est le département qui délivrait les visas pour pouvoir sortir de l'Union soviétique. On aurait dû avoir les visas pour pouvoir sortir,
oui.
Pas pour revenir en France. Donc,
pour pouvoir sortir de la Russie.
Pour pouvoir sortir de la Russie. Donc, c'était les départements spéciaux qui nous donnent le passeport pour aller à l'étranger. Ce n'est pas le même passeport pour aller à l'intérieur. Par contre, ça dure toujours. On a 2 passeports. Un passeport pour
l'intérieur. Ah oui, il y a un passeport intérieur.
Et un passeport pour aller à l'étranger.
Mais le passeport intérieur, excuse-moi, c'est parce que c'était l'URSS, c'est pour aller d'un pays à l'autre ou
oui.
pas d'une ville à l'autre.
Non. Le passeport, l'intérieur, il n'y avait pas les pièces d'identité comme les cartes.
Ah, il n'y avait pas de carte d'identité.
Non. Et c'est
enfin, c'était
c'est
la carte. Ah oui.
Jusqu'à ce moment, c'est comme ça. Et
c'est le passeport.
C'est le passeport qui est le document principal russe. Et donc, et il y a 2 passeports intérieurs et pour aller à l'étranger. Et donc, c'était impossible d'avoir un passeport pour aller à l'étranger et plus avoir les visas qui te permettent de sortir de l'Union soviétique. Il fallait d'abord aller dans un pays socialiste.
Faire ça, la preuve.
Que, il faut aussi, il faut que tu travailles dans une entreprise pendant 3 ans, qu'on te donne recommandation, après tu peux aller. Après, au bout de 5 ans que tu travailles, on t'aura pu accepter que tu ailles pour une semaine dans un pays capitaliste. Donc c'était impossible. Et là, nous sommes étudiants qui viennent de finir la première année de nos études. Et notre ami, qui, on avait des salles de répétition au rez-de-chaussée. Et donc, tous les gens qui sont passés, parfois, quand on a joué les trucs dans la table, dans un café, ils ont cru que c'est un café. Il y avait un moment qui, les gens des Pays-Bas qui sont venus en frappant dans la porte. Et comme il n'a pas parlé russe, les babouchkas qui étaient à l'entrée, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait. Il vient, il veut demander, est-ce qu'on peut manger ici? Et il n'a pas compris. Allez-y. Donc, il frappe à la porte. Nous, en plein répétition, il nous demande, est-ce que c'est un café? Non, c'est pas un café, c'est un thé. Et comme ça, une Française, Martine Néron, qui était un prof du russe à Paris, elle a ramené ses élèves qui apprenaient le russe à Moscou. Et donc, ils sont venus à notre cours de français. Et comme ça, on a fait connaissance. Grâce au Gorbatchev, c'était devenu possible. Parce qu'avant, bien sûr, personne ne pouvait laisser passer les étrangers, en plus d'un pays capitaliste, comme ça, au cours. Là, ils sont venus. Et on est devenus bon, des amis, on s'est échangé des lettres. Donc, c'est Martine Néron qui nous a dit, en janvier de 88, que Gorbatchev a publié une loi qui permet à n'importe qui citoyen de l'Union soviétique d'aller où il veut. Essayer d'aller à l'OVIR, de ce département qui s'occupe de l'évasion. Et nous, nous sommes venus les premiers jours de janvier en demandant, et donc il y a une bonne dame qui était assise dans son bureau, il avait une autre porte qui était ouverte vers les autres, ses collègues, qui étaient dans la pièce à côté. Et quand nous sommes approchés à cette dame, et moi je posais la question, est-ce que c'est vrai qu'on peut demander le passeport d'étranger pour les aller? Il a baissé sa voix, il s'est retourné vers la porte qui était ouverte vers ses collègues et il a dit en chuchotant, je ne sais pas, mais il paraît que oui. Et donc là, on a compris que nous étions les premiers, parce que même les gens de ce département, ils n'ont pas cru, ils ne croyaient pas que c'est possible.
Mais tu n'as pas eu peur?
Pas du tout. Bah, c'est ça la jeunesse. C'est ça la jeunesse, quand tu t'en fous, toi. T'as moi, j'ai pas eu peur de quitter ton pays
en clandestin. Je crois que j'avais plus peur de rester.
Voilà, donc... Non, pas du tout.
Non, mais je me dis quand on donne, parce qu'il y avait plein de rumeurs, tu sais, tu entends des choses, mais pour faire face aux... Moi, je me suis faufilé, je veux dire, j'ai essayé d'éviter les autorités. Mais toi, tu t'es confronté à l'autorité qui aurait pu te dire, mais...
Non, tu vois, j'ai vu que Gorbatchev, il a...
Mais bon, il y avait Gorbatchev, c'est vrai.
Il a permis faire plein de choses, peut-être pour ça, mais quand même, c'était permis, mais il n'y avait personne. Après, on est allé d'acheter les billets pour le train. Il n'y avait personne. On a pu changer les roubles pour, contre les dollars. Il n'y avait personne. Quand nous sommes arrivés avec nos valises devant cette voiture, parce qu'il y avait le train et il y avait deux voitures qui sont allées à Paris. Les autres, ils restaient en Union soviétique. Et donc, quand nous sommes arrivés, il y avait dans chaque voiture de train en Russie, il y a des personnes qui sont dans la voiture,
qui servent
du thé, qui font du linge, tout ça. Et c'est eux qui vérifient les billets de train, et c'est eux qui te laissent passer dans la voiture. Et donc, quand nous sommes arrivés avec ce valise, ce monsieur... Il était bien habillé avec un costume comme ça. Il dit non, vous trompez pas, vos voitures sont plus loin. On a dit non, c'est une voiture pour Paris. Il a dit oui, cette voiture pour Paris. Moi je dis alors voilà un billet. Et il a regardé, il a lu parce que il était assez âgé, donc
il n'avait jamais vu ça.
Il n'avait jamais vu ça. Et donc nous étions peu de dans le voiture, il y avait peu de personnes. Il y avait une madame de Kazakhstan, je ne sais pas, peut-être il était une grande personne. Nous, sans rien, on savait pas que la voiture avec le restaurant, il va rester.
Ah, elle va rester en Union soviétique.
Et oui, et après il y en a pas. Donc on n'a rien pris en espérant qu'on va. Mais non. Et donc, il nous a donné kéfir, il nous a donné du pain. Comme ça, on est arrivé un peu fameux à Paris. Voilà.
Donc, et c'était comment?
Et c'était incroyable parce qu'il y avait une trentaine de personnes qui nous ont accueillis à la gare du Nord. Et même, il y avait une personne qui a pris le train deux stations avant. Mais il pouvait pas passer parce que les gens de nos voitures, les personnes qui accueillent, ils fermaient les portes.
Attends, tu veux dire que t'es venu directement de Moscou jusqu'à Paris avec un seul...
Oui, dans la même voiture. Oui.
T'as pas dû changer de...
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire est l'année prochaine...
L'année suivante, oui.
L'année suivante, il y avait... des queues partout, immense, d'enlever pour changer l'argent, pour les gens ont fait du feu dans la nuit pour se chauffer, pour parce que la queue était pour plusieurs jours, c'était pas pour que 2 heures, pour avoir la possibilité d'acheter les billets pour les trains, pour avoir la possibilité de changer 400 roubles contre les dollars. Donc ça a pris un an. Nous étions le premier. En plus, c'était partout parce que nous sommes allés à Avignon Festival et là-bas, personne ne voulait croire que nous sommes de l'Union soviétique. Un soir, nous sommes rentrés dans le camping. On n'avait pas, bien sûr, l'argent ni rien. Donc, on a resté 2 semaines à l'Avignon Festival et on a habité dans un tente en camping. Mm-hmm. Et c'était aussi des trucs impressionnants parce qu'il y avait des gens filles de Suède qui, le matin, il y avait les douches ouvertes pour tous les gens. Ils ont pris les douches toutes nues. Pour nous, c'est les jeunes de soviétiques, c'était incroyable que c'est possible. Ben voilà. Et donc, en rentrant soir, il y avait un bar qui était ouvert. Nous sommes venus, Nous avons demandé un whisky double. Il a dit un whisky avec... Non. Pur. Il faut pas le... Il dit, vous venez d'où? De l'Union soviétique. Ben non, c'est impossible. Et donc, il n'y avait personne devant le comptoir. Et lui, il ne croyait pas. Et nous, on a présenté nos passeports. Et après, il y avait une foule. Une guitare apparue. On a chanté Vysotsky. Et c'était donc jusqu'au l'aube. Ce bar est devenu un truc parce que tout le monde qui sont venus, c'est les gens de l'Union soviétique. Non, c'est incroyable. C'est pourquoi j'ai dit qu'on était comme des cosmonautes qui sont venus pour la première fois parce que même ici, comme ça, dans la rue, les gens sont rencontrés des soviétiques comme ça, facilement, dans la rue, dans un bar. C'était une chose incroyable.
Donc en Union soviétique, ils ne pensaient pas que vous puissiez aller à Paris, et en France, ils ne pensaient pas que vous puissiez
oui.
venir de l'Union soviétique.
Oui, enfin, c'est ça. Donc,
c'est une double...
oui.
Tu as dit que c'était un théâtre de répertoire.
Oui.
Quel était le répertoire?
Bien sûr, Tchekhov, les pièces modernes, de l'époque soviétique, et même...
Des auteurs étrangers aussi?
Les auteurs étrangers, les Solzhenitsyn, il a mis à cette...
Ah, c'était après 90.
Oui, il a mis Solzhenitsyn, Chalachovka, après 90, mais... Quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, tout est déclenché.
Déjà...
C'était déjà... On a
oui, ça
ne
s'est pas
lire...
fait comme ça.
Oui, oui. Bon. Non, ça a commencé beaucoup plus... Par exemple, moi, je suis rentré du service militaire et j'ai commencé ma formation à l'école théâtrale de Chupkin en 86. Et déjà, tout était permis parce que Gorbatchev, il est ouvert assez vite. Donc, on a commencé à lire... On a lu avant, mais on a commencé à pouvoir acheter les livres
qui avaient été interdits
avant, et de les lire et de monter sur scène. Et en 90, bien sûr, c'était déjà... Donc, le répertoire, il était très, très, très large.
J'ai voulu te demander comment arrête-t-on d'être comédien. Et après, je me suis souvenu que lors d'une conversation, tu m'avais dit que tu sais et que tu peux tout faire. Tu peux faire des pâtisseries, tu peux réaliser des films... Tu peux mettre en scène des pièces, tu peux écrire des scénarios, tu peux jouer de la guitare. Donc, devenir réalisateur a été naturel. Et en l'écrivant, j'ai compris que tu n'as jamais cessé de l'être, en fait, comédien. C'est pour ça que tu peux faire
oui.
tout ça.
Non, je ne peux pas bien sûr dire
Parce qu'un nouveau métier, c'est comme un nouveau rôle.
Oui.
Mais là, c'est comme ils disent les enfants, c'est pour de vrai, c'est tout. C'est la différence. Mais puisque tu sais tout faire et que tu as apporté une guitare, peut-être tu peux nous jouer quelque chose.
On va essayer si ça vous plaît, on va laisser si... Oui, tu vas couper si ça marche pas. Bon, c'est pas grand-chose, c'est une chanson juste pour donner plutôt l'ambiance d'un foyer des élèves d'une école théâtrale, ce qu'on a chanté en buvant la vodka et tout ça pendant la fête des élèves aux années... Mais, en même temps, c'est une chanson qui est très très russe, par son ambiance. C'est une chanson qui a été écrite Alexander Rosenbaum. Voilà. Et donc, on a chanté souvent à notre soirée des étudiants.
On va te mettre l'écouter avec un thé russe aussi.
Ah oui, ah, c'est très... Oui, c'est pas mal. Поліна лідю покрилась. Я упал, подскользнулся, и четвертиночка разбилась. До нее дотянулся. И остатки вылил в рот скособоченный. Может, все же заберет очень.
очень хочется. Может, все же заберет, куда денется. Может, все тогда пройдет, все изменится. Ах, воротись, вернись ко мне, девчоночка. Я стогом сена был, ты в нем иголочка. Сгорит стожок в огне, игла останется. И по твоей вине, и по твоей вине я горький пьяница. На колени встал, мотаю головой, жалко водки, а ветер гонит листья в стаи, и в реке топит лодки, измывается подлец над осиною, словно бабу гнет к земле руки сильные. А мою поди согни, ох, намаешься, год-другой пройдет, пока оклемаешься. Ах, воротись, вернись ко мне, девчоночка. Я стогом сена был, ты в нем иголочка. Сгорит стожок в огне, игла останется. И по твоей вине, и по твоей вине я горький пьяница. Четвертиночки, осколки прямо в кровь, руки режут. Эх, вагон бы да на полку, в месяц раз и не реже. Ну и так далее.
Merci, Алексей. Браво. Tu as quitté le MCAT depuis 2 ans, quand en 98, par hasard, tu es convié à réaliser un clip musical qui plaît, et tu fais ton entrée à la télévision comme réalisateur. Tu vas réaliser pendant 20 ans des films documentaires, principalement sur des sujets scientifiques, un almanach scientifique hebdomadaire, Trou noir, tache blanche, sur la chaîne fédérale Cultura. Tu écris aussi des c'est toi qui écris les scénarios. Puis, en 2018, tu mets en scène samedi, dimanche, lundi, la pièce d'Eduardo De Filippo. Entre-temps, tu interprètes des personnalités de la science et de l'art dans des petits films documentaires. Tu joues dans 3 séries télévisées. Puis, en 2019, tu réalises un film de fiction. Tu pourrais nous parler un peu de cette période, longue période. Comment tu as fait le... Comment tu l'as vécu, en fait, ce passage entre...
Comme ça arrive souvent dans notre vie... On pense que les choses qui se passent sont provisoires, mais en fait, certaines choses restent pour longtemps. J'aurais dû quitter MCAT en 96, en fait, puisque c'était une situation dure dans ma famille, pour l'argent, pour tout ça, et on n'avait pas où se loger, pas l'appartement. Et donc, j'aurais dû gagner l'argent. Et avec mon ami, qui a créé à cette époque une entreprise qui vendait les matériaux pour construire les bâtiments.
Les matériaux de construction, oui.
Donc,
oui.
Il m'a appelé parce qu'il m'a considéré comme une personne intelligente qui peut l'aider de régler les trucs avec des ordinateurs. Ils ont acheté 6 ordinateurs qu'ils restaient pendant un an dans les boîtes parce que personne ne savait comment on peut l'en servir. Et moi, comme j'étais en train de chercher travail bien rémunéré, j'ai pris cette proposition. Alors, je suis parti du théâtre pour gagner. Bref, en 2 ans, on a vécu pas mal de choses fantastiques. Il y avait une histoire avec...
On n'a pas le temps.
Oh, oui. Mais bref, en 2 ans, et c'est ça, les avantages d'une économie qui se développe brusquement d'une manière capitaliste. En 2 ans, j'ai gagné pour mon premier appartement. Et dès que...
À Moscou.
À Moscou, oui. Et dès que je l'ai fait, je suis parti. parce que business quand même, c'est pas du tout mon genre. Et on m'a proposé à cette époque-là, parce que parallèlement, comme tu avais dit, j'ai réalisé des clips musicaux. Et un de ces clips a vu aussi une grande personne. Tu vois, c'est chaque fois, c'est pas moi qui décide. C'est
la chance.
Oui, c'est la chance, par hasard, comme ça, parce que cet élève, Nikolaev, c'était... Il y a un prix en ce moment pour les gens qui font plein de choses pour populariser la culture, la science. Il y a un prix à son nom. Il était mort il y a déjà 15 ans. Et il a fait plusieurs émissions sur la télé russe, sur la chaîne fédérale. Et il avait bien sûr sa rédaction à lui. Donc, par hasard, il a vu ce clip et il a demandé à la personne qui lui a ramené, mon ami, et c'est qui l'a fait. Il a dit, il ne veut pas travailler avec nous. Parce que pour lui, il considérait que ça peut être intéressant qu'il y ait une personne créative qui peut ajouter quelque chose à ces émissions scientifiques et de la culture. Et il m'a invité, on a parlé. Moi, j'ai dit, pourquoi pas, je viens pour 2 ans.
Ah, et, pour 2 ans?
Oui, et j'y suis resté pour 25 ans. Voilà. Et on a fait plein de choses. Il y avait cette émission que tu as nommée, il y avait les autres hebdomadaires. Et
c'est toi qui écrivais le scénario.
Tu vois, par exemple, la première, c'était Sensation. Dans le sens que sensation dans le scientifique, dans la culture. Là-bas, c'était des scénaristes pour une émission entière. Et donc, j'ai travaillé avec des scénaristes. Et les autres, ceux que tu as nommés, les trous noirs,
tache
blanche, oui. Là, c'était un almanach.
Mm-hmm.
Il y avait dedans une dizaine de sujets. Et donc, parfois, oui, moi, j'ai écrit un certain sujet comme scénariste, mais moi, j'ai fait 2-3 sujets dans cette émission chaque semaine. Donc, je connais tout ce qui se passe dans la science en Russie. On a filmé dans un...
Tu as été faire un documentaire aussi, non?
Oui, des commentaires.
Tu as fait plusieurs, oui.
Oui, parce que c'était une grande, grande rédaction. Et ils ont fait... Et pour la première chaîne, et pour la deuxième chaîne, et pour la chaîne culture, donc, de temps en temps, on a fait des commentaires qui étaient pas en série. Parfois, il y avait, par exemple, les génies, les méchants, il y avait une série aussi où on a parlé des grands gens de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, j'ai fait aussi pour cette... C'était une rédaction qui était vraiment, vraiment très productif.
Mmh.
Et il a fait presque tout... Les émissions sur la télé russe, ce qui concernait la science, la culture, mais pas un tout petit peu, c'est pas ce qui a intéressé le pouvoir. Et pas un tout petit peu, la première chaîne a fini de commander des émissions de la science. Ils ont dit que c'est pas son profil. Nous, on a des émissions pour les talk shows, les émissions comme ça. Après, la deuxième, et donc, sur la chaîne culture, il restait quelques émissions. Et les dernières années, c'est terminé complètement parce que il n'a resté que les trucs commerciaux. Et en plus, il fallait quand même de dire des choses correctes. Et donc, c'est fini. En ce moment, la télé qui parle de science, de ça, sur la télévision est finie. Il y a plusieurs chaînes qui sont superbes à YouTube, qui sont en russe et qui sont vraiment super, ils sont très intéressants. Mais sur la télé officielle...
Il y en a plus.
Oui.
En octobre 2024, tu interviens pour la première fois chez Blanche Salin, la prestigieuse école de théâtre à Paris, pour un atelier sur Platonov, de Tchekhov. Et ce printemps, tu continues. Les étudiants sont enthousiastes. Pour rappeler la pièce à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est Platonov, c'est la première pièce qu'Anton Tchekhov a dû écrire vers ses 17 ans. Elle n'a été publiée qu'après la mort de l'auteur. Pourquoi tu as choisi cette pièce pour cet atelier et qu'est-ce que tu as partagé avec les étudiants? Il me semble que tu leur as fait lire aussi une lettre que Tchekhov avait écrite à son frère.
On a lu quelques lettres, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi cette pièce. Ce n'était pas tout à fait comme ça. La première fois, je suis venu en printemps 2024 et on a parlé de Tchekhov. En général, on a lu Trois Sœurs, on a lu La Cerisier.
La Cerisier, oui.
La Cerisier, d'accord. Bon, après ça, les élèves ont plu ce qu'on a fait. Et donc, il y avait une idée pour que je suis venu pour cette masterclass pour Platonov. Parce que il y a les élèves qui ont terminé déjà cette école, ils sont des acteurs. Pendant 3 mois, chaque samedi, il vient pour travailler sur différents auteurs pour créer un spectacle à la fin. Et donc, cette fois-là, c'était Platonov. Et ils m'ont demandé, avant de commencer à travailler, de présenter un peu l'histoire de cette pièce et de parler de Tchekhov en général. Oui, bien sûr, Platonov, mais on sait très bien que c'est son titre original, c'est pas Platonov, c'est...
Fils sans père.
Oui, sans père.
Sans père,
oui. Ah, oui. On traduit autrement aussi, mais...
C'est comment en russe?
Безотцовщина. Безотцовщина. Littéralement, on peut dire que c'est sans père, oui. Et quand même, comme c'est la première pièce qu'on connaît en ce moment de Tchekhov, bien qu'il était réouvert seulement après sa mort en 1923, on a trouvé dans une cellule d'une banque en Russie. Mais on savait déjà, par les lettres, ce qu'il songeait avec ses frères, qu'il existait cette pièce. Sans texte complet, et si on essaie de le présenter sur la scène, le spectacle va durer 6 heures. Et bien sûr, chaque présentation, plusieurs déjà essaient de le monter sur la scène, les metteurs en scène, ils choisissent leur propre extrait pour créer sans vision. Donc, le texte original, il est très, très large, bien qu'il y a dedans déjà tous les personnages qui vont être réalisés dans les pièces
qui suivent.
Oui, qui suivent. C'est déjà de cet côté-là, c'est très intéressant pour travailler sur cette pièce parce que il y a
le noyau
on voit d'où ça vient tous les personnages ultérieurs de pièces de Tchekhov et c'est par cette raison je crois que on revient souvent même vers cette pièce. Il a été écrit quand il avait 15 ans, 16 ans, on ne sait pas exactement quand il a commencé à travailler, mais c'était un période dans sa vie. Il n'a jamais eu un période facile, mais ça, c'était particulièrement difficile parce que lui, comme un adolescent, on le laisse, on peut dire, en otage quand son père est devenu banqueroute et toute la famille est partie à Moscou. Et le jeune adolescent Tchekhov reste avec son petit frère. Ils ont resté tous les deux. Tchekhov, il a vécu chez leur ancien locataire qui a loué l'appartement dans la maison qui appartenait à la famille Tchekhov. Et maintenant, c'est Tchekhov,
qui est devenu locataire.
Donc, et quand même, depuis les lettres, on connaît que parfois on lui demande l'argent à cet garçon de 15 ans. Pourquoi tu ne nous envoies pas l'argent? Donc, la famille, quand même. Lui,
il devait soutenir la famille, il est devenu
adulte très très tôt. Pourtant que c'est sa fameuse phrase, il dit que j'ai pas eu la chance dans mon enfance. Parce que avec ses frères, après l'école, ils sont venus dans la boutique de épicerie de son père. Ils ont travaillé jusqu'au tard de nuit. Après, leur père était très croyant, ils voulaient qu'ils chantent pendant la messe à l'église. Donc, ils ont répété et samedi, dimanche, ils ont répété souvent jusqu'aux 2h, 3h du matin. Et à 5h, ils
se sont réveillés pour l'épicerie.
Donc, ouais. C'était une vie très, très intéressante, on peut dire comme ça légèrement. Mais c'est pour ça ce qu'il a nommé « Dans mon enfance, je n'ai pas eu l'enfance ». Et ça se finit par la banqueroute. Et dans ce moment-là, il a écrit sa première pièce. Et qu'est-ce qu'il fait? En écrivant cette pièce, comme tous les grands hommes, il est très audacieux. Il envoie à Sarah Bernard-Russ de cette époque, à Yermolova, qui joue Mali Théâtre. C'est la première actrice de Russie à cette époque-là. Et c'est à elle qu'il envoie sa pièce. Mais Yermolova n'était pas aussi audacieuse que lui.
Elle refuse.
Il n'a pas apprécié. Voilà. Et donc, on a connu Tchekhov comme un dramaturge un peu plus tard avec ses courtes pièces, d'abord au théâtre Korche, et après avec la deuxième pièce, Ivanov. Qui par contre très très ressemble à Platonov. Et donc on peut parler sur Théâtre Korche aussi parce que c'était un théâtre légendaire, parce que c'était un seul théâtre privé qui est resté jusqu'au 1923. Quand on a retrouvé la pièce.
Platonov.
Oui. Sur Tchekhov.
Qu'est-ce que tu disais aux étudiants? Tu leur as demandé qui?
Parce que pour moi, bien sûr, quand aujourd'hui on parle de Tchekhov, ça peut nous donner l'impression que c'est quelqu'un qui est très loin de nous. Et par exemple, moi, j'ai fait. Une chose qui est très connue en Russie, je ne sais pas est-ce qu'en France on dit ça, combien serré de main nous sépare d'une personne à une autre.
Et j'ai dit, on dit ça en russe Combien de serre?
Oui. Et donc, je lui ai dit, alors, Knipper Tchekhova était femme de Tchekhov, donc... on peut dire que c'est la même personne que lui. Et elle est morte aux années 60, je crois, au début. Et Yefremov, le dirigeant d'UMKAT que je connais, il l'a connu. Il est allé la voir souvent, il l'a connu. Donc, c'est un premier serré de main. Et moi, j'ai connu assez bien Alexey Yefremov. On s'est parlé souvent. Bon, j'ai eu de la chance de le connaître. Donc, c'est le deuxième serré de main. Et je dis aux élèves, voilà, si on se serre de main, c'est que trois serrés de main vous séparent de Tchekhov. Alors, il est très, très proche même du côté quotidien de la vie, même pas pour ses œuvres. Et ses œuvres, bien sûr, là, je crois qu'il faut avoir...
On va avoir un troisième entretien, je pense.
Parce que Tchekhov, il mérite qu'on...
Oui. Oui, parce qu'on voulait faire des lectures, on voulait, mais ça va être pour un troisième entretien parce que.
Oui.
En tout cas, je te remercie, Alexei. C'était très, très riche et très.
Bon, merci. J'espère que c'était intéressant. Merci à vous.